Chapitre 36. Tandis que Pinocchio nageait avec vigueur pour regagner la rive, il s'aperçut que son papa, qui se tenait à cheval sur ses épaules et avait les jambes à moitié dans l'eau, tremblait très fort, comme si le pauvre homme eût souffert d'une grosse fièvre. Tremblait-il de froid ou tremblait-il de peur? Peut-être un peu de l'un et un peu de l'autre. Mais comme Pinocchio croyait que c'était de la peur qui le faisait trembler, il lui dit pour le rassurer « Courage, papa! Dans quelques minutes, nous toucherons la terre et nous serons sauvés !»«
Où se trouve donc cette rive bénie ?» demanda le vieillard, toujours plus inquiet, en regardant au loin avec la fixité d'un tailleur qui enfile son aiguille.
« D'ici, j'examine de tous les côtés et je ne vois que le ciel et l'eau. »«
Mais je vois aussi le rivage !» dit Pinocchio. « Sachez que je suis comme les chats. Je vois mieux la nuit que le jour. »
Le pauvre Pinocchio feignait d'être de bonne humeur alors qu'il commençait lui-même à se décourager. Ses forces commençaient à diminuer. Sa respiration devenait bruyante et pénible. Bref, il n'en pouvait plus. Et le rivage était toujours loin. Il nagea tant qu'il eut un peu de souffle. Puis il tourna la tête vers Geppetto et lui dit en hachant ses paroles
« Mon papa, aidez-moi, car je meurs. »
Et le père et le fils allaient se noyer quand ils entendirent une voix de guitare mal accordée qui leur dit
« Qui donc va mourir ici ?»«
Moi et mon père. »
« Mais je reconnais cette voix. Tu es Pinocchio. »
« Précisément. Et toi ?»
« Moi, je suis le thon, ton compagnon d'infortune dans le corps du requin. »«
Et comment as-tu fait pour t'échapper ?»«
J'ai suivi ton exemple. C'est toi qui m'as enseigné le chemin, et à ta suite, je me suis enfui. »«
Mon cher thon, tu arrives juste à temps. Je te prie, pour l'amour que tu portes à tous les petits thons, tes enfants, de nous aider, sinon nous sommes perdus. »
« De très grands cœurs. Tenez-vous tous les deux à ma queue et laissez-vous traîner. En 4 minutes, je vous conduirai au rivage. »
Comme vous pouvez bien penser, Geppetto et Pinocchio acceptèrent avec empressement l'invitation. Mais au lieu de se tenir à la queue, ils jugèrent plus commode de s'asseoir sur le dos du thon.
« Sommes-nous trop lourds ?» demanda Pinocchio.
« Lourds ? Lourds comme l'ombre ! C'est comme si je portais 2 coquillages !»
répondit le thon qui était d'une corpulence assez forte et aussi gros qu'un veau de 2 ans. Lorsqu'ils furent arrivés à la côte, Pinocchio sauta à terre le premier pour aider son papa à en faire autant. Puis il se retourna vers le thon et lui dit d'une voix émue
« Mon ami, tu as sauvé mon papa. Je n'ai donc pas assez de paroles pour t'exprimer ma reconnaissance. Permets-moi du moins de t'embrasser. » En signe d'éternelle gratitude. »
Le thon avança le nez hors de l'eau et Pinocchio, pliant les genoux à terre, lui déposa très affectueusement un baiser sur la bouche. À ce trait de tendresse si sincère et si spontané, le pauvre thon, qui ne s'y attendait pas, se sentit tellement ému que, dans la crainte de montrer qu'il pleurait comme un enfant, il replongea sa tête dans l'eau et disparut. Pendant ce temps, le jour s'était levé. Pinocchio offrit son bras à Geppetto, qui avait tout juste la force de mettre un pied devant l'autre, puis il lui dit
« Appuyez-vous sur mon bras, mon papa, et partons. Nous marcherons doucement, tout doucement, comme les fourmis, et lorsque nous serons fatigués, nous nous reposerons au bord de la route. »
« Et où irons-nous ? » demanda Geppetto.
À la recherche d'une maison ou d'une ferme où l'on nous fera la charité d'un morceau de pain pour apaiser notre faim et d'une botte de paille pour nous coucher. »
Ils n'avaient pas fait 100 pas qu'ils aperçurent, assis sur le talus de la route, 2 vilains museaux qui s'étaient postés là pour demander l'aumône. C'étaient le renard et le chat, mais ils étaient méconnaissables. Figurez-vous que le chat, à force de se faire passer pour aveugle, avait fini par le devenir réellement. Quant au renard, vieilli et ravagé par la teigne, il n'avait plus de queue, mais plus du tout. Ce vilain coquin, tombé dans la plus affreuse misère, s'était un jour trouvé dans l'obligation de vendre sa belle queue à un marchand ambulant qui l'avait acheté pour en faire un chasse-mouche.
« Oh, Pinocchio, s'écria le renard avec des pleurs dans la voix, fais une petite charité à deux pauvres infirmes.
Infirmes, répéta le chat. Passez, vilain masque, riposta le pantin. Vous m'avez trompé une fois, mais vous ne m'y reprendrez plus.
Crois-moi, Pinocchio, nous sommes aujourd'hui pauvres et infortunés en vérité.
En vérité, répéta le chat. Si vous êtes pauvre, vous le méritez. Rappelez-vous le proverbe qui dit « Argent volé ne profite jamais ». Adieu, vilain masque.
Aie pitié de nous.
De nous, répéta le chat. Adieu, vilain masque. Rappelez-vous le proverbe qui dit « La farine du diable s'en va tout en son ».
Ne nous abandonne pas, je t'en prie.
Je t'en prie, répéta le chat. Adieu, vilain masque. Rappelez-vous le proverbe qui dit « Qui vole le manteau de son prochain, d'ordinaire meurt sans chemise ».
Et là-dessus, Pinocchio et Geppetto continuèrent tranquillement leur route. À 100 pas de là, ils virent à l'extrémité d'un sentier, au milieu des champs, une jolie chaumière tout en paille avec un toit de tuiles et de briques.
« Cette chaumière doit être habitée, » dit Pinocchio. « Allons-y et frappons à la porte. »
Ils y allèrent en effet et frappèrent.
« Qui va là ?»
dit de l'intérieur une petite voix.
« Nous sommes un pauvre papa et son fils, sans pain et sans gîte. »
« Tourne la clé et la porte s'ouvrira, »
dit la même petite voix. Pinocchio tourna la clé et la porte s'ouvrit. En entrant, ils regardèrent autour d'eux et ne virent personne.
« Où est le maître de la chaumière ?»«
Me voici. »
Le père et le fils levèrent la tête et virent, sur une poutre du plafond, le grillon parlant.
« Oh, mon cher grillon !»
dit Pinocchio en le saluant poliment.
« Maintenant, tu m'appelles ton cher grillon, n'est-il pas vrai ? Mais te rappelles-tu le jour où, pour me chasser de ta maison, tu me donnas un coup de maillet ?»«
Tu as raison, grillon. Chasse-moi aussi, donne-moi un coup de maillet, mais aie pitié de mon pauvre papa. » »«
J'aurai pitié du père et même du fils, mais j'ai voulu te rappeler ta méchante action. » Quand on le peut, il faut se montrer bon avec tous si nous voulons être traités avec bonté à notre tour.
Tu as raison, grillon, tu as tout à fait raison, et je me rappellerai la leçon que tu me donnes. Mais dis-moi, comment tu as fait pour t'acheter cette jolie chaumière ?
Cette chaumière m'a été offerte hier par une gracieuse chèvre qui avait la laine d'un très beau bleu.
Et où elle est allée, la chèvre ?
Demanda Pinocchio avec une très vive curiosité.
« Je ne sais pas. »«
Quand reviendra-t-elle ? » ?»«
Elle ne reviendra jamais. Elle est partie hier, tout affligée, et tandis qu'elle pleurait, il m'a semblé qu'elle disait « Pauvre Pinocchio, maintenant je ne le verrai plus. » À cette heure, le requin doit l'avoir dévoré. »
Elle a parlé ainsi ? C'était donc bien elle ? C'était bien elle ? C'était ma bonne fée ? Se mit à crier Pinocchio en sanglotant.
Quand il eut bien pleuré, il s'essuya les yeux, puis il prépara un bon petit lit de paille pour que le vieux Geppetto s'y étendît. Ensuite, il demanda au grillon parlant,
« Dis-moi, grillon, où pourrais-je trouver un verre de lait pour mon pauvre papa ?»«
À 3 pas d'ici, tu trouveras le jardinier Jeannot qui a des vaches. Il te donnera le lait que tu désires. »
Pinocchio courut chez le jardinier Jeannot, mais le jardinier lui dit,
« Pour combien veux-tu de lait ?»«
J'en veux un plein verre.
Un verre de lait coûte 1 sou. Commence d'abord par me donner ton sou. »«
Je n'ai même pas 1 centime, » répondit Pinocchio, triste et tout mortifié.
« Tant pis, mon pauvre pantin, » répliqua le jardinier. « Si tu n'as pas même 1 centime, je n'ai pas même 1 doigt de lait à te donner. »«
Oh, hélas !»
gémit Pinocchio. Et il se disposait à repartir.
« Attends un peu. Nous pouvons peut-être nous arranger. Te mettrais-tu à tourner la manivelle du puits ?»«
Qu'est-ce que c'est que cette manivelle ?»«
C'est l'instrument de bois qui sert à monter l'eau du puits pour arroser le potager. »«
Je vais essayer. »«
Eh bien, tire-moi 100 seaux d'eau et en échange, je te donnerai un verre de lait. »
C'est bien.
Alors Jeannot conduisit le pantin dans le potager et lui apprit la manière de tourner la manivelle. Pinocchio se mit aussitôt au travail. Mais avant d'avoir tiré 100 seaux d'eau, il fut inondé de sueur de la tête aux pieds. Il n'avait jamais ressenti une telle fatigue.
Jusqu'ici, j'avais réservé cette fonction à mon âne, mais il est sur le point de mourir.
Conduisez-moi auprès de lui.
Volontiers.
Dès que Pinocchio fut dans l'écurie, il vit un beau petit âne étendu sur la paille, épuisé de fatigue. Quand il l'eut regardé en face, il se dit à lui-même, tout troublé,
« Mais j'ai déjà vu cet âne-là. Sa physionomie ne m'est pas inconnue. »
S'inclinant jusqu'à lui, il lui demanda dans la langue des ânes,
« Qui es-tu ?»
À cette question, le petit âne ouvrit ses yeux mourants et balbutia dans la même langue,
« Je suis Lumignon. »
Puis il ferma les yeux et expira.
« Ah, pauvre Lumignon, » dit à mi-voix Pinocchio.
Et il prit une poignée de paille pour essuyer une larme qui lui coulait sur la joue.
Tu t'émeus tant pour un âne qui ne te coûte rien? Que serait-ce si tu l'avais payé avec ton argent?
Il faut vous dire qu'il était mon ami.
Ton ami?
Mon camarade d'école.
Comment? Comment tu avais des ânes pour camarade d'école? Alors tu dois avoir fait de fameuses études.
Le pantin, mortifié par ces paroles, ne répondit pas. Il prit son verre de lait presque chaud et retourna à la cabane. À partir de ce jour, il continua pendant plus de 5 mois à se lever chaque matin avant l'aube pour aller tourner la manivelle et gagner ainsi le verre de lait qui était nécessaire à la santé de son papa. Bien plus, trouvant ce travail insuffisant, il apprit aussi un peu plus tard à fabriquer les corbeilles et les paniers de joncs. Avec l'argent qu'il gagnait, il subvenait avec économie à toutes les dépenses journalières. Entre autres choses, il fabriqua de ses propres mains une élégante petite charrette pour promener son papa et lui faire prendre un peu d'air lorsqu'il faisait beau. À la veillée, il apprenait à lire et à écrire. Pour quelques centimes, il avait acheté au village voisin un gros livre auquel manquaient la couverture et la table des matières, et c'est dans ce livre qu'il s'exerçait à la lecture. Pour écrire, il se servait d'un fétu de paille taillé comme une plume, et comme il ne possédait ni encre ni encrier, il remplit une petite fiole de jus de mûre et de jus de cerise. À force d'application au travail et d'ingéniosité, il avait réussi non seulement à procurer le nécessaire à son père toujours malade, mais à économiser 40 sous pour s'acheter un petit habit neuf. Un matin, il dit à son père,
« Je vais au marché pour m'acheter un paletot, un béret et une paire de souliers. Quand je reviendrai à la maison, ajouta-t-il en riant, je serai si bien habillé que vous me prendrez pour un grand seigneur. »
Quand il fut sorti de la maison, il se mit à courir tout joyeux. Tout à coup, il s'entendit appeler par son nom, se retourna et vit une belle limace qui débouchait de la haie.
« Tu ne me reconnais pas ? » dit la limace. « Il me semble... Tu ne te rappelles pas cette limace qui servait de femme de chambre à la fée aux cheveux bleus? Tu ne te rappelles pas le jour où je descendis pour t'éclairer et où tu restas le pied cloué dans la porte de la maison? Je me souviens de tout cela, s'écria Pinocchio. Mais réponds-moi vite, ma belle limace. Où as-tu laissé ma bonne fée? Que fait-elle? M'a-t-elle pardonné? Se souvient-elle toujours de moi? M'aime-t-elle toujours? Est-elle loin d'ici? Pourrais-je aller la retrouver?
À toutes ces demandes faites précipitamment et sans reprendre haleine, la limace répondit avec son flegme habituel.
« Mon pauvre Pinocchio, la pauvre fée est étendue sur un lit d'hôpital. » « À l'hôpital ? Hélas ! Frappée par de nombreux malheurs, elle est tombée gravement malade et n'a pas de quoi s'acheter un morceau de pain. « Vraiment ? Oh, quel chagrin tu me causes ! Pauvre petite fée ! Pauvre petite fée! Pauvre petite fée! Si j'avais 1 million, je courrais lui porter!
mais je n'ai que 40 sous. Les voici. J'allais justement m'acheter un habit neuf. Prends-les, Limace, et va vite les porter à ma bonne fée.
Et ton habit neuf?
Que m'importe l'habit neuf? Je vendrai jusqu'à ces hardes que j'ai sur le dos pour lui apporter un peu de secours. Va, Limace, et dépêche-toi. Reviens d'ici 2 jours. J'espère pouvoir te donner encore quelques sous. Jusqu'ici, j'ai travaillé pour secourir mon papa. À partir d'aujourd'hui, je travaillerai 5 heures de plus pour secourir aussi ma bonne maman. Adieu, Limace. Je t'attendrai dans 2 jours.
La limace, contre son habitude, se mit à courir comme un lézard pendant la canicule. Quand Pinocchio rentra, son papa lui demanda
« Et ton habit neuf ?»« Il ne m'a pas été possible d'en trouver un à ma taille. Bah, je l'achèterai une autre fois. »
Ce soir-là, Pinocchio, au lieu de veiller jusqu'à 10 heures, veilla jusqu'après minuit. Au lieu de faire 8 corbeilles de joncs, il en fit 16. Puis il alla se coucher et s'endormit. En dormant, il lui sembla voir en rêve la fée, belle et souriante, qui, après lui avoir donné un baiser, lui dit « C'est bien, Pinocchio. Pour ton bon cœur, je te pardonne toutes les méchancetés que tu as faites jusqu'à ce jour. Les enfants qui secourent avec amour leurs parents dans leur misère et dans leur infirmité méritent toujours beaucoup de louanges et d'affection, alors même qu'on ne peut pas les citer comme des modèles d'obéissance et de bonne conduite. Sois prudent dans l'avenir, et tu seras heureux. » Au même moment, le songe finit. Pinocchio se réveilla et ouvrit les yeux tout grands. Quel ne fut pas son étonnement quand il s'aperçut qu'il n'était plus un pantin de bois. Il était devenu un petit garçon, comme tous les autres. Il jeta un coup d'œil autour de lui. Il ne vit plus les murs de paille de la cabane, mais une belle petite chambre meublée et ornée avec une simplicité presque élégante. En sautant de son lit, il trouva tout préparé, des vêtements tout neufs, un béret neuf et une paire de bottines en peau qui lui allaient comme des gants. Quand il fut habillé, il mit tout naturellement les mains dans ses poches et en sortit un petit porte-monnaie d'ivoire sur lequel étaient inscrits ces mots. « La fée aux cheveux bleus restitue à son cher Pinocchio les 40 sous qu'il lui a donnés et le remercie de son bon cœur. » Il ouvrit le portefeuille, et au lieu de 40 sous de cuivre, il vit reluire 40 écus d'or tout neuf. Quand il se regarda dans le miroir, il se prit pour un autre. Ce n'était plus l'image d'une marionnette de bois qui s'y réfléchissait, mais l'image vive et intelligente d'un bel enfant aux cheveux châtains, aux yeux bleus, avec un air gai et triomphant. Au milieu de toutes ces merveilles qui se succédaient, Pinocchio ne savait plus s'il était éveillé ou s'il rêvait encore les yeux ouverts.
« Papa, où es-tu ? »
s'écria-t-il tout à coup. Il entra dans la chambre voisine et trouva le vieux Geppetto sain, vif et de bonne humeur comme autrefois. Il avait repris sa profession de sculpteur et il était précisément en train de dessiner une belle corniche agrémentée de feuillages, de fleurs et de têtes d'animaux.
« Dis-moi, papa, je serais bien curieux de savoir comment expliquer tout ce changement imprévu !»
demanda Pinocchio en sautant au cou de son père et en le couvrant de baisers.
« Ce changement imprévu dans notre maison est dû tout entier à ton mérite, » dit Geppetto.
« Pourquoi mon mérite ?»«
Parce que dès que les enfants, de méchants qu'ils étaient, deviennent bons, ils ont le pouvoir de faire prendre un aspect nouveau et riant à l'intérieur de la famille. »
« Mais où donc s'est caché le vieux Pinocchio de bois ?»«
Le voici, » répondit Geppetto.
Et il lui montra un gros pantin, adossé à une chaise, la tête tombante d'un côté, les bras ballants et les jambes croisées et repliées à moitié. C'était miracle qu'il resta encore debout. Pinocchio se retourna pour le voir et dès qu'il l'eut regardé un peu, il se dit en lui-même avec infiniment de complaisance « Comme j'étais ridicule quand j'étais pantin. Et comme je suis heureux d'être devenu un bon petit garçon. » Fin.